Bonjour and welcome to our podcast series, Une ville, deux réalités, a meeting between Anglos and Francos 50 years after the Official Languages Act. Ce projet a été lancé dans le but de donner aux deux groupes linguistiques la possibilité d'échanger et d'exprimer leur point de vue sur la vie quotidienne afin de mieux comprendre et apprécier la dualité linguistique de la ville de Kingston et les Mille Îles. This podcast is presented in both official languages.
Bonjour et bienvenue à la série de Balado, une ville, deux réalités. Rencontre entre les Franco et les Anglo, 50 ans après la loi sur les langues officielles. Mon nom est Julie Risson et je suis votre animatrice pour ce 8e Balado Diffusion. Et oui, c'est encore moi aujourd'hui. Notre Balado Diffusion est spécial car c'est le volume 2 du thème sur la santé mentale. Le sujet étant très vaste et important, nous pensons qu'il serait intéressant pour vous qui nous écoutez d'en savoir plus sur le sujet. Donc, si je suis encore avec vous aujourd'hui, nous avons bien entendu nos deux mêmes invités, Mme Chantal Blanchet, qui est formatrice de premiers soins en santé mentale de la Commission de la santé mentale du Canada, et Shiri Lachine, who is the owner of BroadMind, a company that focuses on strategies for mental health in workplaces, communities, and for the individuals. Donc, bienvenue mesdames et merci d'avoir accepté de faire partie de cette deuxième balado de diffusion sur la santé mentale, un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
Et nous aussi!
Bonjour Julie! Bonjour Chantal! Hi!
Bonjour, bon matin!
So, last time we had our discussion together, we unfortunately did not have enough time to cover the subject as much as we wanted. That is why we're together again this morning. And Shiri, it's important to explain what are the signs and symptoms, because as I recall, we mentioned last time that every year one Canadian out of five have mental health issues. So how can we identify our stressors and what are some of the physical and emotional manifestations?
Thank you, Julie. I really enjoyed our first podcast where we started to toe dip into some of these subjects. And I'm really glad that we're able to expand a little bit further because, yes, as you said, one in five Canadians have mental health issues within the year. And I think in our last podcast, I mentioned that, of course, we are concerned about that one person out of five. But really, we're really concerned about the five people in the five, because when we talk about stressors and physical and emotional manifestations, it impacts all of us, right? So, you know, when it comes to, you know, who's the audience for this? Who are we thinking about when we talk about stressors and mental health issues? It's for five and five. So when it comes to identifying stressors, I was thinking about it. I recognize that in myself, anytime someone would look at me and say, wow, you seem really stressed, Shiri, it would bother me. The fact that I wasn't able to actually move through that stressor or was getting impacted physically by that stressor really caused me a significant emotional response. So I've done a lot of work around stress, trying to figure out what it is and how do I get impacted and how do other five and five people get impacted. And I think it's important to recognize that stress is everywhere, right? There's adversity, challenges, trauma. It could be small, it could be big. And stress, in essence, is our reaction to a situation. So it's not the situation, it's our reaction. So now we're talking about our thoughts and our emotions in terms of reacting to a situation. And Chantal, feel free to jump in at any point.
Yes.
Otherwise, I will go on and on. And in any case, when it comes to our reaction to a situation, it could be positive or negative, right? There's positive stressors and there's negative stressors. And so I think that's also important to recognize because stress, I think, has a negative connotation. right? Where people go, just like in my little story where I'm like, somebody says, Sherry, you seem really stressed. To me, it's negative, but you can have a positive reaction to stress. Say you've got a wedding that's coming up. I don't know if anybody on this podcast has a wedding coming up, but if we do, if you do, that's a positive stressor, right? You want it to be a good day. You want things to go well, but your body's reacting to it. But there could be negative stressors. One of the number one negative stressor is money. And in our workplaces, the number one stressor is work-life balance, whatever the heck that means. We can talk about that. In any case, I think it's important that we recognize that stress comes from a variety of different ways. And it actually affects our bodies in what I've been able to uncover. It affects our bodies in three different ways: physically. Like, we get physically stressed. Emotionally, we can get emotionally distressed, and actually chemically, because when stress comes at us from a variety of different ways, we shoot out cortisol. We shoot out hormones that actually impact our body and get us ready for that stressor. So, sorry, I know I went on the stress, but I think it's important that we understand what that means and where how we're getting impacted, because that's how our mental health can go off balance. If we get impacted by these stressors in a significant way, we could get really, really harmed physically, emotionally, and I'm going to say chemically. So what does it look like when you're stressed? Physically, in terms of what it could look like if you're stressed, fatigue. You could see people not taking care of themselves, not grooming themselves, that their body language changes, you know, that they can actually start to curve in and not stand up tall and supported. So there could be some significant physical changes, including sort of energy levels as well. And emotional manifestations, there are many. For me, it's like irritability, additional anxiety, the fact that I don't know if you have that negative voice that comes in your head or that negative thought, that could start to get increased as well. And actually, I'll ask, yeah, Chantal, go ahead. What else?
No. J'allais juste dire qu'on va en reparler de la petite voix. On en avait parlé à la première édition, mais on va en reparler parce qu'elle joue un gros, gros rôle, cette petite voix tannante.
Yeah. Yeah, and there's different words for it. Some people call it the itty-bitty S-word committee. So the itty-bitty, yeah. I'm not going to swear, but itty-bitty blank committee. And it does. It can really take over, and that will affect your emotions and the way you navigate your day-to-day. So I'm glad we started off talking about stressors, because we all have our own mental health. We all have our skills and our knowledge to be able to maintain our mental fitness, our mental hygiene. But these stressors, you know, they could come at us, and they could be acute, like maybe a car accident. They could be episodic, like that email that comes from that coworker that just, you know, it's happening every day and it just chips away at you. Or it could be chronic, like challenges over money and finances and stuff like that. It will impact us if we don't have the tools to be able to support ourselves through them. And I think we're going to talk about some of those tools through it.
Oui, absolument. Si on regarde aussi au niveau vraiment des symptômes très que l'on peut nommer, au niveau des manifestations psychologiques, Sherry, tu nous parlais qu'il y avait trois niveaux où est-ce qu'on peut reconnaître différents signes et symptômes. Au niveau psychologique, lorsqu'on vit un grand stress, de l'anxiété, on peut avoir une sensation d'être détaché de soi. Un peu comme si tu t'observais. Donc, ça, c'est une sensation que tu peux vivre lorsque tu as beaucoup d'anxiété ou de stress. Dans le fond, on peut quasiment dire que c'est des synonymes aujourd'hui. Il y a, on peut voir aussi une accélération ou un ralentissement de la pensée. Moi, quand je suis anxieuse, j'ai l'impression que dans ma tête, ça va beaucoup moins vite que je voudrais. Et en même temps, j'ai l'impression que tout va vite autour de moi. Fait que ça fait vraiment une bizarre de sensation. évidemment, ben, il y a toute l'inquiétude. Ça peut amener de l'insomnie ou encore des rêves très réalistes. Hein, parce que le cerveau va utiliser les rêves, les cauchemars pour dealer avec le stress. Alors souvent, de faire un cauchemar, ça peut être une bonne chose parce que ça veut dire que notre cerveau est en train de dealer avec un stress et il veut le sortir et c'est à travers les cauchemars. Il y a des recherches là-dessus, c'est très intéressant. Sherry, tu nous parlais, toi, quand tu es très anxieuse ou stressée, tu deviens irritable. Hein, définitivement, yeah. L'irritabilité, l'impatience, la colère. Souvent, on va plutôt associer des émotions comme la tristesse ou le désespoir, des choses comme ça, mais non, ça peut être beaucoup plus agressif, entre parenthèses. Donc ça, ça peut être au niveau des manifestations psychologiques. Si on regarde au niveau des symptômes physiques, quelqu'un qui vit de l'anxiété, il peut avoir au niveau tout le système cardiovasculaire, alors des palpitations, même des douleurs thoraciques carrément, une accélération du rythme cardiaque, de rougir, ok? Des fois, on va faire de l'anxiété puis on va rougir. Des symptômes respiratoires, alors de l'hyperventilation ou de l'essoufflement. Et on va en reparler de l'importance de la respiration, mais certainement, lorsque quelqu'un vit de l'anxiété, il y a souvent une mauvaise respiration qui rentre en ligne de compte. Et il faut comprendre qu'avec une mauvaise respiration, on envoie tout simplement moins d'oxygène au cerveau. Et c'est ici la santé de notre cerveau dont on parle. Donc, la manière dont on respire est extrêmement importante. Tout le côté neurologique, on peut avoir des étourdissements, des mal de tête, des sueurs abondantes, des picotements, des engourdissements. Ça, c'est vraiment tout le côté neurologique qui va se manifester dans notre corps à travers ces signes-là. Ensuite de ça, on a tout le système gastro-intestinal. Évidemment. Donc, des nausées, des mal de ventre, des mal de cœur. Il y en a même qui vont vomir carrément, de la diarrhée. Ça, ce sont tous les symptômes au niveau du système gastro-entérique. Ensuite, ça. Sherry, if you want to move in, don't...
I'm just going to... and yeah, like neurological symptoms too. I love that you brought those up because that, you know, that sort of dizziness, maybe brain fog, you know, just not being able to focus or concentrate on tasks, right? That those could be some really key things where you're like, well, am I not eating or is it stress? The other thing that I wanted to highlight because my latest book that I'm reading is by Dr. Joe Dispenza, and he talks a lot about stress and how it impacts the body. And he focuses on how our immune system is impacted. And I think that's an important one, especially because this podcast number two, still during COVID times, where just before the podcast, we were talking about Kingston just had an uptick in terms of cases. And so how do we, you know, recognize how the impact on our immune system is happening? So knowing that these signs of stress are out there and that it really does weaken your immune system. So trying to find the skills and knowledge to move through those stressors, really important. And I think we're going to talk about some of that through this podcast in terms of resilience, right? How do you bounce back from stressors? Because you can learn how to identify and then move through that safely. So I just, yeah, there, that's what I got.
Merci, Sherry. Donc, Chantal, peux-tu nous en parler en détail, comment prendre soin de soi, justement? Parce que comme Sherry vient de le mentionner, dans les derniers mois, plusieurs personnes ont souffert d'angoisse, d'anxiété dû au coronavirus. Alors, comment on peut prendre soin de soi dans notre vie de tous les jours?
Oui, bien, en fait, j'ai trouvé 50 manières de s'occuper de soi. Puis, au cours du podcast, on va vous les donner à coup de 10. Hein, peut-être qu'on peut faire quelque chose comme ça pour pas que ça soit trop Donc, allons-y avec les 10 premiers, OK? Et on en a déjà parlé, c'est pas grave, on se répète, mais il y en a qui sont vraiment, vraiment importants. Alors, pratiquez les grandes et profondes respirations, OK? Extrêmement important. Il y a différentes manières de respirer qu'on peut apprendre, on reviendra là-dessus. Faire de l'exercice. On devrait faire au moins 30 minutes d'exercice par jour. Que ce soit simplement d'aller marcher. C'est pas obligé d'être de la marche rapide. Ça peut être une belle marche à regarder la nature, à s'émerveiller devant les fleurs, à regarder les gens passer, les autos, peu importe. OK? Alors, de l'exercice qui nous fait plaisir. Parce que, c'est pas nécessairement mieux si on se force à faire une activité qu'on n'apprécie pas. Et là, ça nous amène un stress supplémentaire parce qu'on n'a pas de fun. Alors, OK, avoir du fun, c'est vraiment...
C'est exactement ce que j'ai fait hier, moi, justement. À l'homme du point, moi, c'est ma thérapie.
Tu es allé marcher sur la trail, dans le bois?
Oui, sur le bord du lac, avec mon petit sac de pinottes pour les Suisses.
Ben, exactement. Alors, tu vois, ça, c'était ton exercice, mais en même temps, ça a été probablement très spirituel, à la limite. Oui, exactement. OK. Ensuite de ça, parler à nos amis de comment est-ce qu'on se sent. À chaque jour, on devrait avoir une petite interaction, au moins avec quelqu'un avec qui on peut échanger sur comment on se sent. On sait que c'est pas toujours évident, mais en ce moment, à cause de la distanciation physique qu'il faut faire, mais on peut utiliser différents moyens technologiques qui existent, que ce soit par texto, que ce soit par téléphone, que ce soit par FaceTime, juste de prendre quelques minutes pour pouvoir échanger sur comment on se sent. Ensuite de ça, on peut participer à quelque chose qui nous rend heureux, OK? Que ce soit de participer dans un jeu avec nos enfants ou d'écouter de la belle musique, peut-être, mais vraiment faire quelque chose là, qui amène l'émotion de la joie à l'intérieur de nous. Okay? Des fois, ça prend peut-être un petit peu de temps de réflexion pour trouver qu'est-ce qui amène vraiment de la joie. Et un coup qu'on l'a trouvé, on embarque là-dedans à pieds joints. Une bonne diète, hein, de bien se nourrir, on en a parlé au premier podcast, c'est aussi important que l'exercice et la respiration. On en avait déjà parlé, je ne m'étendrai pas trop là-dessus. De prendre du temps à chaque jour pour relaxer, pour rien faire. Il y a énormément de gens qui se sentent coupables lorsqu'ils ont quelques minutes pour rien faire. Alors que, et le corps et le cerveau a besoin de ça. Quelques minutes où on s'écrase sur le divan, où on s'assoit sur le patio, on se couche sur notre lit, peu importe, mais à ne rien faire. Ça, c'est important, quelques minutes à tous les jours. Ensuite de ça, d'écrire un journal, ça peut être seulement une, deux, trois lignes. Il y en a qui sont plus à l'aise et qui vont peut-être écrire quasiment un roman, mais d'écrire à chaque jour une pensée qui nous a traversée pendant la journée, comment est-ce qu'on sent, peut-être d'écrire un obstacle qu'on a eu puis sur lequel on aimerait réfléchir davantage. Alors ça, c'est vraiment une très, très bonne manière. De pratiquer ce qu'on appelle la relaxation musculaire progressive, OK? Le PMR en anglais. Sharon, I don't know if you know about this, the progressive muscle relaxation. Donc, c'est vraiment de détendre, de relaxer chaque partie de notre corps en y allant vraiment, en commençant par les orteils et en montant jusqu'en haut. Et c'est vraiment de se concentrer sur chacun des muscles pour le relaxer. Donc ça prend de la pratique un petit peu parce qu'au début, t'es comme pas trop sûr, puis whoop, t'es relax dans le bas du corps, mais t'es très tendu dans le haut. Mais au fur et à mesure, on apprend comme à vraiment relaxer chacun de nos muscles.
Oh, Chantal, is that kind of like guided meditation? Is that sort of the same idea?
I think it's different. Okay. It's something that's part of CBT, Connective behavioral therapy.
Therapy, yep.
Oui, qui est très dur à dire en anglais pour des francophones.
You did it.
Oui, merci. Mais c'est ça, c'est vraiment de relaxer chaque muscle, mais d'une manière très consciente. Alors, c'est un petit peu différent. OK? Évidemment, ben, de se garder actif pendant la journée, hein, c'est ça a l'air de rien, mais c'est important. Mon dernier petit truc pour tout de suite, on y va par coup de 10, c'est aussi de faire une activité de pleine conscience. Hein, on en a parlé un petit peu, le mindfulness, comment c'est important de se concentrer sur le moment présent et de se concentrer sur une activité vraiment sur le moment présent ou de se concentrer juste sur les émotions que l'on vit sur le moment présent. Ça permet au cerveau de prendre un petit peu de distance avec tous les stresseurs qu'il y a justement autour de nous et en se concentrant vraiment juste sur quelque chose, sur le moment présent, ça libère vraiment les différentes hormones pour se relaxer. Donc ça, ce sont mes premiers 10 manières de s'occuper de soi.
Oui, c'est d'ici la fin de l'émission, on va avoir une méchante belle boîte à outils.
oui, absolument, c'est le but d'aujourd'hui.
So I was busy taking notes on all of those. So getting my thoughts together. Those were great, Chantal. Thank you for those. And I just thought it'd be important to mention that there's going to be a lot of different things that we can do to take care of ourselves in times of stress. Be it chronic, acute. Or ongoing, but not everything works for everybody, right? So finding what works for you and keeping your mind open could be very, very helpful. And I'm a mechanical engineer by study before I became a mental health professional. So I was not into the very, energy-minded or body-minded kind of stuff until I became a Reiki Level 1 practitioner. And I was like, which is energy healing. And yes. So that opened my mind to the possibility that there are things out there that we don't know about. And so I think maybe recognizing that not everything works for everybody, but also to keep an open mind and try and connect with maybe something that could offer you care and support.
Absolument. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mal à essayer quelque chose qu'on n'a jamais fait avant? Il n'y a rien de mal à ça. Alors, on essaie différents trucs. Comme on dit, on va vraiment vous garnir votre coffre d'outils. Puis après, ben, c'est aux gens à essayer. Qu'est-ce qui fait le plus leur affaire? Peut-être que pendant une semaine, tu vas essayer d'écrire tes petits notes dans ton journal. Puis au bout de la semaine, tu fais non, finalement, ça, c'est pas pour moi. Ben, tu l'auras essayé. Et maintenant, tu sais que non, ça, c'est pas vraiment le truc pour toi. Ça veut pas dire que c'est un mauvais truc ou un bon. C'est juste que pour toi, ça te convient pas et tu essaies d'autres choses. Mais il faut pas avoir peur d'essayer.
Exactly. And then also, if you're not consistent, say in writing in your journal or in doing your mindfulness practice or in going out for your walk, if you say miss a day or two, to let yourself off the hook.
Oh oui, absolument. C'est pas la fin du monde. Et puis, tous ces trucs-là, l'objectif, c'est de se faire du bien. Alors, si vous vous tapez sur la tête ou que la fameuse petite voix fatigante vient vous décourager, là, on a un problème. Alors, il faut vraiment... il faut se donner un break. Absolument.
Donc, l'importance de pratiquer l'autocompassion.
Oui, autocompassion, extrêmement important.
Donc, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'anxiété, parce que Sherry nous en a parlé tantôt. Donc, Sherry, est-ce que tu pourrais développer un peu sur le sujet? Is there like do's and don'ts for people who have relatives or friends who suffer with anxiety? Things we shouldn't say or do or...
Yes, And, you know, I'm not somebody who has consistently, had anxiety or felt anxiety, except for one point in my life after I had had my second child and I wasn't doing all that well. And I started to realize that I was getting impacted by anxiety, even going to the grocery store. You know, and paying, but at that point I was still paying with cash. And I remember my hands shaking as I tried to take the money out to give to the clerk or the, and I recognized that this could really absolutely take over. It could take over everything about your situation. And so, you know, what do we do when we see that someone is being impacted significantly by anxiety? Because those signs and symptoms, that they could be many. And we sort of said some of them that sort of look like a reaction to stressors. So they could be irritated, they could be confused. They could actually be looking like they're having a panic attack, which is a sudden onset of intense fear. And it could look like or feel like a heart attack. So that kind of thing, these signs and symptoms could be many, and they could be very scary, and they're absolutely disabling. So what do we do when we see that? So there are things that we should do, and then there are things that we should not do. I'll start with the you should not do. You should not tell people to snap out of it. So don't force a confrontation. Don't say, that's weird. What are you doing? Everything's fine. Stop reacting that way, right? So invalidating their reaction to something that they're feeling doesn't help. And so that's kind of hard, though. Say somebody is having a panic attack, which is a sudden onset of intense fear, and you're at the beach and you're thinking, well, wait a minute, there's no reason for you to be acting or behaving that way. And so our reaction could very well be one of disbelief. And so just recognizing, taking those few moments to say whatever's happening for that person is very real for that person. So recognizing that and recognizing our own emotional response to that intense fear or terror, because that could also impact someone. So I think really the idea here is if someone is experiencing, you know, small amounts of anxiety, like me shaking as I try to pay the clerk, or big amounts of anxiety, like a panic attack, really focusing on not forcing a confrontation, not treating it as if something were not really happening. So that's in general what you shouldn't do. So what can you do? And I think this stands true for almost any time someone's experiencing significant challenges, be it depression, be it anxiety, be it a moment where they feel that they're losing touch with themselves, or enraged even, or anger, any of the intense emotions, is to first and foremost, provide some validation. And what does that mean? It means that you want to help that person understand that what they're experiencing is real for them. You may not understand it. Like, you may not even get why they're having a panic attack at the beach where you're safe. But you want to make sure that they recognize that you see that it's real for them. Reassurance and validation. So basically trying to say, what I like to use is words like, that sounds really hard, what you're going through. It sounds really tough. And so just validating it. And it sounds like things are going really, things are very painful for you in this moment. Is that right? You can start asking them those non-judgmental questions, but really trying to work to make sure that you're validating that what they're feeling is real for them. And then what you're going to do is you want to express concern, calm, and comfort. So you want to make sure that they know that you're staying with them. You're here. You're not. There's no judgment, that you're supporting. And you're really trying to create an environment that's calm and comfortable while you validate their experience and what they're going through. Again, even if you don't understand it, or if you feel like it's weird. Go ahead, Chantel.
No, I'm just validating what you're saying. Parce qu'on en a parlé la première fois, mais le non-jugement est absolument vital. Donc, il faut se mettre à la place de la personne qui est en train de souffrir. La dernière chose dont elle a besoin, c'est de sentir qu'on la juge sur ce qu'elle est en train de vivre. Alors, le non-jugement, là, l'écoute active, de réassurer, comme tu dis, de donner de l'espoir que tout va bien aller et que la personne n'est pas seule. Ces trois composantes-là sont extrêmement vitales.
Puis, que faisons-nous, Chantal, si par hasard quelqu'un nous exprimerait des pensées suicidaires?
Ben, avant qu'on parle du suicide, si tu veux bien, je peux rester dans l'anxiété. Juste pour terminer, parce que on a dit qu'on allait se garnir notre boîte à outils. J'ai des petites phrases pour vous qu'on peut dire lorsque quelqu'un vit une situation d'anxiété. OK? Et puis, de toute façon, ça peut être des phrases qui peuvent être utilisées dans d'autres moments aussi. Donc, une des phrases qu'on veut vraiment éviter, c'est le « tu devrais ». Hein? « Tu devrais essayer le yoga. Tu devrais essayer la méditation. Tu devrais faire ça. Tu devrais essayer ça. » OK?
I'll jump in, Chantal, and just say that in English, it's should, people. You should do this. You should do
it. Exactly. Okay? So, alors, au lieu d'arriver avec nos bons conseils, pourquoi qu'on ne demande tout simplement pas « Comment est-ce que je peux t'aider? » Tout simplement. Alors, remplacez toutes les « you should », les « devrait » par « how can I help you? » « Comment est-ce que je peux t'aider? » Tout simplement. OK? Ensuite de ça, au lieu de dire « c'est tout dans ta tête », hein, Sherry a dit « oh, voyons, t'as une réaction qui est exagérée ou tout ce que tu vis, c'est dans ta tête, oublie ça », ben, on peut tout simplement dire « parle-moi de tes pensées qui t'amènent ton anxiété ». Ok, c'est quoi tes pensées sur l'anxiété? Et souvent, de décortiquer pensée par pensée, ça peut aider aussi justement à se sortir de ce nuage de panique et d'angoisse là, dans lequel la personne elle est. Ça fait du sens? Qu'est-ce que je vous dis?
Oui.
Oui, OK, on continue. Sherry l'a dit, supposons, tu sais, au lieu de dire « Ah, les affaires pourraient être bien pires, hein, tu pourrais être pogné à tel endroit où tu pourrais… » On n'a pas besoin de ça, OK? On a besoin tout simplement de valider comment est-ce que la personne se sent. Alors, Sherry en a parlé, c'est vraiment important. On n'a pas besoin de… C'est pas une question de comparer, OK? Qui l'a pire? Quelle situation est pire? Non, c'est pas important. Toi, en ce moment, ton cerveau t'amène dans une situation où tu ne te sens pas bien. C'est ça ta petite histoire tout de suite là. Eh bien, validons comment est-ce que la personne se sent pendant qu'elle vit cette petite histoire-là, OK? On veut pas dire aux gens « Ah oh, oui, je sais exactement comment tu te sens. » OK? À place, on voudrait dire, ben, écoute, je suis là pour toi, puis t'es pas tout seul. Parce que qui peut vraiment dire comment est-ce qu'une autre personne se sent exactement? OK? C'est toute la question de viens marcher dans mes souliers, là, puis après ça, on pourra en jaser. Alors, faut pas prendre pour acquis qu'on sait exactement comment que la personne se sent. On veut plutôt simplement lui dire, je suis là pour toi et tu n'es pas seul. OK? Alors, encore une fois, il n'y a pas besoin de se comparer. Ça, c'est pas nécessaire. Puis ça rentre un petit peu dans le jugement, puis on veut éviter ça. OK? Finalement, une dernière, peux-tu te calmer, hein? Ou calme-toi, mon Dieu! Calme-toi,
calm down!
Bon, ben, à la place, pourquoi qu'on dirait pas, veux-tu respirer avec moi? Ça tente-tu, on va faire des exercices de respiration ensemble. Et là, tu peux faire différentes techniques ou simplement juste respirer normalement, OK? Alors, ce sont ces petits trucs de choses à dire au lieu de ne pas dire. des mauvaises phrases qui vont amener la personne dans un sentiment de jugement et peut-être un sentiment de honte. Et on a parlé comment que la honte est un sentiment qui amène vraiment beaucoup de préjugés envers soi-même et qui fait qu'on a de la misère à aller chercher de l'aide. Alors, c'est comme un cercle vicieux un peu, hein? Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important les mots qu'on utilise avec quelqu'un qui vit une détresse.
I love that you said that. The words that we use matter, because the words matter. And you could actually say the wrong thing at those situations, which could have a significant impact. And not to scare people to say, the words you use could cause additional anxiety. But recognizing that we may say the wrong thing. We're human after all, and we make mistakes. I constantly make mistakes. And so I guess maybe just to add on in terms of, you know, all of the tools, all of the narrative pieces that you gave, Chantal, which were really great, is if you do say the wrong thing, like I think the example you used was, I fully understand where you're coming from. Like, I understand where you are. You know, I know I've had a similar experience. And sometimes that lands really not well. And so if you do, and you see a reaction, right, you see that maybe their anxiety is increasing, or their disdain, or their irritability, you can do another human skill that is really hard to do sometimes, which it causes a lot of vulnerability. You have to be humble, is to apologize.
Oui.
And to apologize, right? To apologize in a way that, you know, you didn't intend to say something that hurt them, but you want to help. And so if you do actually a Google search on how to apologize, you'll get a variety of different ways how to apologize. But in essence, it's owning what you just said, recognizing that it caused something, and then wanting to do something different in the future. And I always say when I mess up is, I really want to help, you know, and it's not help me help you, but it's what can I do to help you in this moment? Because I don't want to hurt. Yeah.
Exactly.
Yeah. And then for this COVID stuff, the situation that we're in, somebody's given me these words that sort of help, because sometimes we're judging other people for having a reaction that's not resilient, or that's not something that seems like they're able to move through this the same way you are. And so they told me, they said, you know what, we're all in the same storm, which could be, you know, this pandemic, but it could also be life. We're all in the same water or a storm, but we're in different boats. And so we all have different education, experience, energy levels. And so we're going to handle the situation very differently. So that helped me understand that somebody may be going through something that I fully don't understand, but that's okay.
Oui, ça ne nous empêche pas, même si on ne comprend pas nécessairement une situation, de pratiquer l'empathie.
Yeah, right, exactly. That's the word, empathy. Thank you.
Empathy.
Donc, Chantal, est-ce que tu aurais voulu nous revenir? Tantôt, tu nous as mis sur pause pour les pensées suicidaires, parce que là, justement, oui. L'empathie, déjà en partant là, c'est important pour ça aussi.
Oui, alors la question était, que faisons-nous si quelqu'un nous exprime ses pensées suicidaires? De parler de suicide, c'est pas quelque chose avec lequel la majorité des gens est à l'aise. Hein? C'est encore un peu tabou. Quand on y pense, là, 45 ans, c'était encore illégal au Canada de vouloir mourir par suicide. Alors, Il y a eu un bon bout de chemin qui a été fait, mais il faut encore travailler là-dessus. Et puis, heureusement, aujourd'hui, il existe d'excellentes formations qu'on peut aller chercher. Il y a beaucoup de ressources pour devenir plus à l'aise, pour avoir cette conversation-là, parce que c'est important. Lorsque quelqu'un nous exprime des pensées comme ça, de vraiment ne pas avoir peur d'attaquer le sujet. Alors, il faut carrément être capable de poser directement la question « As-tu envie de te tuer? As-tu envie de mourir par suicide? As-tu l'intention de te suicider? » OK? Alors, il y a différentes manières qu'on peut poser la question. Et parce que c'est une question qui peut être difficile à prononcer. Ça peut être bon même des fois de se pratiquer un petit peu tout seul avec soi-même pour dire qu'est-ce que ça? Quelle est la question qui, moi, va bien sortir de ma bouche, si on veut, hein? Parce que des fois, on va vouloir poser la question puis ça nous roule dans la bouche puis on n'est comme pas capable de la dire parce qu'on est, c'est pas un sujet avec lequel on est à l'aise. Il y a beaucoup de gens qui vont penser encore que parce qu'on en parle, ça va pousser la personne à le faire. Alors que c'est tout à fait le contraire. Ce qu'on voit, c'est que, justement, lorsque quelqu'un reconnaît dans une autre personne qui a une détresse assez forte et importante pour avoir des idées suicidaires, lorsqu'une autre personne reconnaît ça, ça peut faire un bien immense. Alors, c'est important d'avoir la vraie discussion. Et là, à partir du moment que la personne, bon, nous dit « oui, j'ai l'intention de me suicider », la prochaine question, c'est « as-tu un plan? » Parce que ce qu'on veut déterminer, c'est quoi le temps que j'ai là, pour aider cette personne-là? Est-ce que nous sommes en crise immédiate? Donc, est-ce que la personne a un plan pour passer à l'acte dans les prochaines minutes, les prochaines heures, peut-être les prochains jours? On est quand même dans l'immédiat. Ou est-ce que ce sont des pensées suicidaires un peu plus à long terme? Donc, par exemple, la personne va nous dire, moi, mon plan, c'est que si, après le COVID, je ne réussis pas à retrouver mon travail, eh bien là, je vais me pendre. OK? Bon, ben toi, ça te dit, OK, j'ai un petit peu de temps, je vais pouvoir travailler et avoir différentes conversations, donner des ressources, peut-être aller à l'hôpital, peut-être s'assurer de parler à un thérapeute, OK? Donc, la question du plan, elle est importante. Parce que si, au contraire, la personne nous répond, non, écoute, j'ai un gun chez moi et dans quelques heures, je m'en vais à la maison puis je vais me tirer, là, la situation est nettement plus urgente. Et là, tu vas vouloir prendre des moyens beaucoup plus drastiques dans le genre d'appeler les paramédics ou encore amener la personne directement à l'hôpital. Et il y a une phrase qui est super importante que j'ai appris un jour et que c'est important de garder, c'est « vaut mieux sauver une vie qu'une amitié ». Alors, des fois, peut-être qu'on va forcer un ami à aller à l'hôpital ou aller rencontrer un thérapeute et peut-être cet ami-là sera fâché après nous, mais vaut mieux avoir sauvé sa vie que d'avoir sauvé l'amitié. Donc ça, c'est vraiment une partie extrêmement importante, d'être capable de poser la question directement et ensuite de demander la question du plan. Et là, je vais laisser Sherry nous en dire un petit peu plus sur elle, comment qu'elle voit ça, puis on pourra continuer.
Well, I love the way you laid out an important topic because there are some steps. There are things that we can do to support people. And the way you started with, we used to grow up, at least I grew up thinking that mentioning or saying the word suicide, you didn't do that because the thought was that you were implanting that thought in other people. And to your point, that's not the case. Yeah, I was working with an assist trainer, so applied suicide intervention skills training, which is a 2-day course from an international organization called livingworks.net. So that's an important organization to help with suicide prevention, and they do a variety of different courses. Anyway, she was telling me, she said, you know what, Sherry? She said, 1 in 20 people are thinking of suicide at any given point. And then she went on to tell me, but I think it's higher. And so I had to think about that for a bit because in the room where the course was running, we had 25 people. And so that meant that in that moment, you know, if we take those statistics to be correct, that one, maybe two people were thinking of suicide. And so if that's the case, don't we need to talk about it? Don't we need to have serious conversations? Yeah. You know, the whole and because you're thinking of suicide, it doesn't mean that you actually have a plan to do something about it. but maybe we need to talk about it and almost normalize it as part of being human. And so changing the way we talk about it is really important. And so, you know, using the word suicide, recognizing that that could be an absolutely normal part of where that person is. And again, you know, trying to reframe this stuff so that we can actually engage people safely without that fear, you know, in a conversation, recognizing that, you know, when people are thinking of suicide and potentially have a plan to do something about it, they don't necessarily want to kill themselves. They want the pain to stop, the psychological pain, right? And so, you know, having that framing may help us engage in that important conversation. So I love the way you framed it. I love those steps of asking the question, asking about a plan. And then I, when I get the yes to both of those questions, I always say the words, because I'm an emotional person. And so when I get a yes to a plan, which I have on several occasions, the words that I have to say, because I get emotional, are, why don't you and I create a plan to keep you safe for now? Because that's all you can do. And so you stay with them, you provide them calm and comfort to the best of your ability, not unlike what we were talking about with anxiety, right? Where you're using those words to validate, you're using those words to create calm and comfort, but at the same time, you're in a different mode. You're calling a crisis line or 911. You're getting help and you're staying with that person as you get help. So I think it's an important conversation. I'd love to normalize this conversation so we can all be asking questions, talking about suicide, and blowing apart the idea that when you say the word, wow, you're implanting that in someone's head. That's not the case.
Non, pas du tout. Puis, il faut vraiment se concentrer sur le fait qu'on veut donner de l'espoir. Parce que souvent, la personne qui est rendue là, hein, chérie, c'est comme tu dis, c'est pas nécessairement de mourir, c'est d'arrêter la douleur. Donc, qu'est-ce qu'on peut amener comme espoir pour cette personne-là que la douleur va s'arrêter, hein? On peut, parfois, ça peut être le bon moment de parler de certaines ressources. D'autres fois, c'est pas le moment à ce moment-là, immédiat. Peut-être que durant cette situation-là, ce qui est important, c'est simplement de tenir la main de l'autre et de l'écouter parler. Peut-être que c'est la première fois que cette personne-là, elle a quelqu'un qui reconnaît qu'elle a ses pensées suicidaires-là. Et là, ça lui fait du bien d'en parler et de dire, ben, sais-tu, non, c'est pas parce que je veux me tuer, mais c'est parce que je veux que ça l'arrête ou je suis plus capable de ça. Et là, avec cette conversation-là, on peut peut-être regarder les ressources qui sont disponibles et qui pourraient aider. D'un autre côté, encore une fois, si au contraire la personne elle est vraiment, vraiment rendue là et qu'elle a un plan immédiat, il faut agir. Alors, 911, la ligne de crise, aller à l'hôpital, il ne faut pas avoir peur de l'aide extérieure dans ce genre de situation-là.
Donc, yes. Good.
fait que je regarde l'heure, il nous resterait peut-être une dizaine de petites minutes. Donc, est-ce que vous aimeriez enchaîner un petit peu sur le continuum de la santé mentale?
Oh, that and also just a little bit on resilience. I think that it's...
Oui.
Okay, we're going to have a third podcast. Just throw it out. If you don't mind, can I jump in on that, Chantal? Is that okay?
Oui.
Okay. And so maybe we can combine the conversations around this continuum, the mental health continuum. I know the last time we spoke, we talked about this mental health continuum. If this is the first time you're hearing about it, it's like a thermometer to assess others in terms of their mental health and to potentially also use it to assess yourself. And it's quite simple in the way that it's constructed. It's sort of green where you're healthy, yellow, you're reacting, orange, injured, and red, ill. And each one of those categories is specific to you as a person. It's specific to the other individual that you're looking at. And so just recognizing that it can be used as a thermometer that slightly differently, impacts other people. But when it comes to recognizing doing, you know, sort of how to check in with someone, knowing that, you know, somebody has a green or healthy, if there's a marked change in their green or healthy, if there's a marked change in their behavior, it means that something's going on. And so, and that can be their mood, behavior, performance, thinking, attitude, what makes them them from a mind and body perspective. So I'm just going to touch on that a little bit, and then maybe Chantal, you can talk more. But again, I in the dizenda minute that we have, I want to talk about resilience, because we are so resilient, and especially in these times, I've seen a lot of green behavior, resilient, healthy green behavior, but I've seen a lot of orange behavior and some red behavior. And so Chantal mentioned 10 things to take care of you. I loved all of those because they can help you as you sort of dip into that yellow and orange. But in essence, this concept of resilience speaks to a lot of this. It basically says you live in green, 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 and then you dip into yellow. If you're resilient, you go back to green. But if you don't have the skills and knowledge for resilience or the capacity, you may go over to orange, which then may lead to red, which then makes it harder for you to get back to green. And so what is resilience in general? Well, resilience is that ability to move through adversity, challenges, or dare I say trauma, but get back to your green in a timely way, in your time, because it's different for different people. And so, you know, to say that humans are inherently resilient, I think is really important. To go back to the conversation of stressors, stressors will impact us differently, and different stressors will impact us on different levels. And if for some reason you're physically not well, you're spiritually not well, you're mentally, psychologically not well, socially not well, your resilience gets whittled down. And so, you know, in order, some people are naturally more resilient than others, but you can learn to be resilient. So in terms of a boîte d'outils toolbox, some of the things that we could do to be a little more resilient, and I love TED Talks, so I watch a lot of TED Talks.
Il y en a des merveilleux sur la résilience.
are there a lot of French TED Talks, actually?
No.
No way. Okay, so that's a bit of a challenge.
Oui.
But for those who haven't, it's TEDTalk.com. They're 5-minute to 20-minute of ideas worth sharing. And if you type in resilience, you'll get a lot of different ideas around how do we build our own capacity and how do we support people through resilience. The most recent TED Talk that I watched was talking about the 3 key indicators for resilient individuals. And these are things that you can absolutely learn. Number one was, and I love this one, is that, and it's another swear word, which I'm not going to say, but is to know that bleep happens, right? That
bleep.
Stuff, right? The resilient people sort of know that mistakes happen, you know, challenges happen, that things can go wrong. And they don't live in that anxiety and fear around it. They just know that with life, some things, you know, go off the rails. And so that was step one. The second one, resilient people focus on the things where they want to spend their attention. So where, you know, where energy goes, you know, things flow or whatever this, I can't remember the kind of statement, but we focus your attention on the things that are really important to you. So case in point, if you have a conflict with a coworker, right, and you don't want to see that coworker, you think of that coworker, you think of the emails that they send, well, you're putting a lot of attention on that. Instead, shift it over to, wow, my child's doing really well in school. I want them to do, you know, I want to support them the best of my ability. I want to make them really good meals, right? So you put your energy, focus, and attention on the things that bring you joy and cut the things or put boundaries around the things that really shouldn't be causing you that strife, that anxiety, that fear. And then the last thing that she said, which I really loved, was do this test. This is a little test that you can say, ask to yourself, to see whether or not where you're putting that attention is really important. And that is this helping me or is this harming me? And so I love that because that's a quick skill that you can use to say, wow, should I continue with this behavior or this thought, or should I move away from it? So case in point, yesterday we had we made a cake for Father's Day, and there was some cake left over. And I was going to go and eat the cake. And this pandemic hasn't been great for my weight. I've been feeding my soul, which is fantastic. But I looked at that cake and I said, would that help me or would that harm me? And in this moment, as I've tried to just sort of, you know, get back into a good physical shape so that I can feel good, I said that would harm me. And it was an easy decision. So it's just this little litmus test to say, is this something that I should engage in or not? So I really like the way that that was framed. And so with that, over to you, Chantal.
Ben, la précision que j'aimerais amener, c'est que souvent les gens vont confondre la résilience avec, je ne sais pas comment l'appeler vraiment en français, en anglais on va dire mental toughness.
Yeah, or I say mental fitness, mental hygiene.
La force du mental. Non, not fitness, toughness. Okay? Donc, et la différence entre les deux, c'est que lorsqu'on a as-tu une idée, Julie, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça?
Je réfléchis pendant que tu parles.
Le mental toughness, là, Elvis Gratton nous en parlait, là, c'est la force du mental, OK? La force du mental, c'est un peu comme les Navy Seals, puis les gens là, qui font des affaires bien extrêmes, là, ces gens-là vont avoir une un mental vraiment très fort, et c'est que eux vont utiliser les différents défis, obstacles, challenges de la vie pour se propulser. Ok, eux là, ils utilisent vraiment le stress pour se propulser. Ça, c'est une autre histoire. Quand on parle de résilience, c'est vraiment l'autocompassion. La résilience, c'est vraiment de dire, attends, tu peux, là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me faire du bien et pour ensuite aller mieux? Comment est-ce que je peux me relever de tel obstacle ou de tel défi? C'est de rester dans une émotion optimiste, hein, justement, de voir qu'est-ce qui va me faire du bien puis qui va me donner de l'espoir. Comment est-ce que je peux me relever de l'obstacle qui m'a fait tomber, OK? C'est vraiment ça. Alors, c'est deux choses différentes, puis dans le cadre de la santé mentale, c'est vraiment la résilience, je pense, qui est importante, parce que ça, c'est vraiment ça qui amène, comme l'autocompassion, comme tu disais, Julie, c'est tellement un bon terme, OK? Alors, dans la résilience, on apprend de nos erreurs, on construit des relations positives, on se pardonne. Savez-vous ça? Hein? L'auto-pardon?
Yeah. Je sais pas, yeah, si forgiveness. We forgive ourselves.
Yes, forgive yourself. Ça, c'est fait partie de la résilience, OK? De se donner des petits objectifs qu'on peut atteindre, de ne pas avoir peur d'avoir des échecs. Tout ça, ça fait partie de la résilience.
Donc, je sais que je vais peut-être me faire taper sur les doigts parce qu'on va dépasser, mais est-ce que tu aurais voulu vitement, soit nous redonner encore un petit peu de ta boîte à outils ou nous parler un petit peu du changement du processus intérieur, parce que je sais que tu avais dit que tu aurais aimé ça d'en parler un peu, mais là, on est comme très, très, très écourté dans le temps.
Ben oui, mais c'est pas grave. Oui, effectivement, je vais vous donner d'autres trucs, OK? Donc, d'écouter de la musique, hein? c'est vraiment très simple, mais évidemment, de choisir de la musique qui va nous relaxer ou qui va nous inspirer, OK? Alors, c'est peut-être pas le bon moment quand on veut prendre soin de sa santé mentale d'écouter, par exemple, du rap américain dans lequel, ils ont toutes sortes d'idées assez négatives, OK? De sourire. Saviez-vous que de sourire envoie des messages à notre cerveau comme de quoi que, finalement, les choses sont peut-être pas si pires que ça. Alors, même de se forcer à se regarder dans le miroir et de se faire un beau grand sourire au moins une fois par jour, c'est nécessaire, OK? De s'entourer de gens qui nous rendent heureux. Hein? Ça, ça, Ça a l'air simple, mais souvent on l'entend, hein? Sortez les gens toxiques de votre vie. Un peu comme la question que Sherry nous disait, est-ce que ça va me faire du bien ou ça va me faire du mal? Eh bien, il y a des gens qui nous font du bien, puis il y a des gens qui nous font du mal. Et il ne faut pas avoir peur de faire un ménage dans notre vie par rapport aux gens qui peuvent nous amener des choses négatives. Alors, s'entourer de gens positifs. De se faire une to-do list le matin. Hein, de se faire une petite liste le matin des choses qu'on a à faire, ben ça peut être simple, mais ça peut aider notre cerveau, ça peut aider nos pensées à se structurer. Et ça nous fait du bien, parce que dans notre cerveau, dans notre tête, nos pensées sont un peu plus structurées. C'est toujours plus facile de continuer notre journée. Bien dormir, on en a parlé la première fois, encore une fois, que ce soit comme l'exercice, la bonne nourriture ou les bonnes respirations, d'avoir un sommeil réparateur, c'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer? Avez-vous besoin de changer vos oreillers? Avez-vous besoin de changer vos draps? Est-ce qu'ils sont trop chauds, pas assez chauds? Peut-être de faire une analyse physique de votre environnement pour essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour essayer de mieux dormir. Pratiquer tous les jours la gratitude. J'en ai parlé la première fois de l'importance de la gratitude, mais de prendre quelques minutes à chaque jour pour réaliser et peut-être même faire une liste de tout ce qui est bon en ce moment dans notre vie, ça aussi, ça fait du bien et ça aussi, ça aide le cerveau à réaliser qu'il n'est pas en danger. Hein, parce que c'est vraiment, lorsqu'on a une crise d'anxiété, une crise de panique, une psychose, des choses comme ça, c'est notre cerveau qui tout d'un coup a détecté une menace. Et là, il rentre dans tous ces modes-là et nous amène tous les symptômes physiques et psychologiques qu'on a parlé tantôt. Donc, de pratiquer la gratitude, ça peut être extrêmement bénéfique. La méditation, on en a parlé aussi, le yoga. Une autre chose que j'aime aussi, c'est d'écrire à chaque jour la liste de nos forces. Qu'est-ce que moi, je suis capable de faire? C'est quoi mes forces? C'est quoi mon superpower? Ben, de prendre le temps de réaliser ces forces-là, ça peut faire une belle différence aussi. Puis ça peut être une liste qu'on met dans notre petite boîte à outils, puis que quand on se sent moins bien, on ressort cette petite liste-là, puis on dit « Ah oui, attends, tu peux, c'est vrai, moi j'ai ce superpower-là, puis je suis capable, puis j'ai cette force-là, puis j'ai cette capacité-là de nous ramener à ce qui est positif et ce qu'on peut faire. » Ça peut faire beaucoup, beaucoup de bien. De colorier. Colorier, c'est une forme de méditation, c'est une forme de relaxation. Hein, il y a quelques années, il y a eu toute la mode des cahiers de coloriage, de mantras. C'est vraiment une belle manière de s'occuper de soi. Ça nous ramène aussi un petit peu dans un mood d'enfance. Puis lorsqu'on se sent un petit peu enfant, ça fait toujours du bien. Quand on va sortir l'enfant en nous, ça fait toujours du bien. Alors, de colorier peut être une belle manière de s'occuper de soi durant la journée. De faire quelque chose auquel on est vraiment bon. Hein? Si vous, là, vous une journée, vous filez moins bien, mais que vous êtes vraiment bon à faire un super gâteau, faites-les donc, ce super gâteau-là. Même s'il y a juste vous qui va le manger, vous allez vous sentir fier parce que vous savez que c'est quelque chose que vous êtes vraiment bon. On a besoin de ces petits moments-là aussi dans la journée pour pour prendre bien soin de nous. Est-ce que je continue ou on parle d'autres choses?
malheureusement, notre temps est pas mal écoulé. À moins que Sherry, tu avais quelque chose de vraiment là, que tu ne peux pas te retenir de dire.
Okay. And I'm 30 seconds. Absolutely 30 seconds. Because I love the list that Chantal gave. I think it's really important. And I'm going to highlight a couple of things because if I'm going to leave anyone with some things that they can do to just take care of themselves, but also to take care of others, it's all about, I'm going to talk about feelings. I am an emotional person. And so I love the whole idea of feeling work. So I'm going to say for individuals, and it's highlighting what Chantal said, is gratitude. gratitude. If you can feel gratitude every day, and it could be through a journal, it could be just sort of channeling that emotion, because we know hopefully what gratitude feels like. And so letting that emotion go through your body. And then the other one, if you're wanting to support other people, my recommendation is to be curious about how other people feel. And so that would put you into this mode of asking the right questions to get to where they are in that moment. And then overall, I think, again, another feeling piece is that it's okay to be not okay. It's okay to be angry, sad, mad, as much as it's okay to be positive, happy, glad. So the feeling pieces, that's what I'll leave people with.
Très important.
Je vous remercie énormément, mesdames. Puis là, je suis certaine qu'il y a du monde qui nous écoute qui aimerait entendre ta liste au complet. Parce qu'on sait que, comme membre de la communauté francophone, que trouver des... accéder à des services en français, ça peut être très difficile. Puis les listes d'attente à Kingston sont vertigineuses. Il y a des services, des ressources comme 211, KFLA, le KMFRC, qui sont trois organisations qui essayent d'assurer un service de base en français, mais pour les soins à long terme, c'est très difficile. Donc, il y a quand même plusieurs lignes qui sont disponibles en français. Puis, ce que je tiens à souligner, c'est parce qu'on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais vous allez pouvoir aller sur le site Internet de l'ACFOMI. Ils vont mettre des ressources. On peut ajouter ta liste à Chantal aussi là-dessus. Et dans une prochaine balado-diffusion, ils vont adresser la disparité entre la disponibilité des services en français et en anglais dans le domaine de la santé. Donc, j'aimerais encore une fois remercier énormément Chantal et Sherry d'avoir été là ce matin. Il me semble qu'on aurait pu continuer encore pour une autre heure, tellement qu'il y a des choses à dire.
On a tellement de choses à dire.
Je me dois aussi de donner des remerciements à l'ACFOMI et Patrimoine Canada pour avoir rendu possible cette balado-diffusion encore aujourd'hui. Et merci à tout le monde de nous écouter. Sans vous, on n'aurait pas de raison d'exister. Donc, merci encore à tous et on vous souhaite une belle journée.
Thank you.
Thank you for listening to One City, Two Realities, Une Ville, Deux Réalités, brought to you by ACFOMI, l'Association canadienne française de l'Ontario, Conseil régional des Mille Îles, and produced by Titan Sound in Kingston. Music composed by Elizabeth Santos. ACFOMI souhaite remercier gracieusement Patrimoine Canada, the Kingston Frontenac Public Library, nos partenaires médias, nos commanditaires, et nos invités spéciaux. Visit acfomi.ca for the latest information on our podcast series, as well as all the bilingual events happening in the Kingston and Thousand Islands region.